Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Bonjour, nous sommes à table avec Hippolyte Courty, qui n'est pas seulement le fondateur de l'Arbre à Café, mais qui est aussi l'auteur du livre Café, édité au Chêne. Nous sommes en Éthiopie, là.
Bonjour, oui, on est en Éthiopie, effectivement.
On peut le dire, nous sommes aux origines du café, comme cette région d'Éthiopie où est né le premier arbre à café.
Alors, on est aux origines de l'Arabica, qui est l'une des 120 et quelques espèces de café. Et on est sans doute aux origines de la consommation du café, et donc des rituels du café.
Le mot café, ça vient de la région de Kaffa.
L'histoire ou l'étymologie du terme café est un petit peu à l'égal de notre connaissance historique sur les débuts, on va dire, de la consommation du café. C'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Il y a peu de sources tangibles. On a quelques traces archéologiques. On sait qu'il y a eu du café. On a retrouvé des bols, des tasses de consommation de café. Mais on a beaucoup de mal à dater exactement l'apparition de la boisson et donc des rituels et donc du mot. On sait aujourd'hui que non, le café, le terme de café ne viendrait pas de Kaffa, peut-être plus de Kawa, des termes arabes qui sont de l'ordre de l'ivresse, de la culture justement, de la boisson.
Si les origines connues du café sont l'Éthiopie, il y a d'autres sources.
Oui, les origines connues de l'arabica se situent effectivement en Éthiopie, mais l'arabica n'est pas la seule espèce. En fait, la plus grande biodiversité du café sont les îles Mascarene, donc Madagascar, les Comores, etc. Sauf que c'est n'y poussent pratiquement que des espèces non comestibles, et les deux grandes autres espèces comestibles, à savoir Canephora, soit le Robusta, et le Liberica, sont plus originaires de l'Afrique équatoriale, donc actuelle Congo, Gabon, Liberia, etc.
Et là aussi, il y a des rituels particuliers liés au café?
Alors, le café, ces cafés sont en général présents dans les pharmacopées ancestrales, notamment on sait au Cameroun, ou dans les rituels familiales de mariage, etc. Donc, mais pas tant en tant que boisson de consommation courante.
Une boisson qui est une boisson magique, qui est une boisson diabolique?
Ça dépend des époques et des lieux, évidemment. C'est une boisson qui est très identitaire, et qui a rencontré beaucoup de cultures, qui aujourd'hui est diffusée partout dans le monde. On estime qu'il y a plus d'1,2 milliard de tasses qui sont bues chaque jour. Donc ça fait beaucoup de buveurs. L'idée qu'on a un petit peu sur la boisson du café, c'est qu'à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau territoire, on va dire, eh bien évidemment, elle apporte son lot de réfractaires, de débats, d'adorateurs. Et ça, on l'a vu à la fois dans la péninsule arabique, qui est le territoire qu'elle a touché, que le café a touché en premier, où il a même été interdit à la Mecque. Et puis après, il est allé jusqu'en Turquie avec l'islamisation et surtout les soufis. Et là, pareil, il a été de nouveau interdit de temps en temps pour trouble à ordre public. Et puis, en touchant l'Europe, eh ben, on a, pareil, des édits, notamment de Jacques II après Cromwell, qui interdisent la consommation du café.
Et aussi dans ce qui va devenir l'Allemagne ou en France.
Enfin. Absolument, on a des textes, cette fois-ci vraiment assurée, où la monarchie, notamment Louis XIV, s'inquiète un petit peu de la consommation du café, non pas pour le café en tant que lui-même, en tant que tel, mais plus justement pour les effets du café qui est un excitant, qui est quelque chose qui va fluidifier l'intelligence et qui va soutenir le débat.
Avant de remonter dans une période si récente, hein, si l'on va beaucoup plus loin dans le temps, Hippolyte Courty, alors vous qui avez justement une formation d'historien, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous appelez les trois âges du café dans votre livre?
Alors, les trois âges du café, quand on en parle, on pense tout de suite à Michelet, qui aimait ces grandes structures, ces grands, enfin cet art de la chronologie, du rythme séculaire. Et donc lui, il va en parler un petit peu par rapport à ce qui arrivait en France. Donc c'était voilà le café arabe, ce qu'on a appelé l'arabica justement, parce qu'on pensait qu'il venait des pays arabes, mais en fait il venait de l'Éthiopie, il transitait par le Yémen et donc par la péninsule arabique, le Caire. Et surtout, c'était on était en plein orientalisme, alors pas celui esthétique ou artistique du 19e, mais il y avait beaucoup de voyageurs, des botanistes, etc., qui allaient dans le Levant et qui rapportaient ses souvenirs, soit ses descriptions du café, soit ce rituel.
On est fin 17e, début 18e ?
On est 18e siècle. C'est contemporain des deux autres grandes boissons tropicales que sont le cacao et le thé. Donc c'est 17e siècle, et puis une diffusion plus affirmée au 18e, effectivement.
Pour mieux l'apprécier, peut-être qu'il faudrait assister à une cérémonie du café. Alors Hippolyte Courty, quand on est dans les hauts plateaux éthiopiens et qu'on assiste à la cérémonie du café, est-ce que vous pouvez nous décrire cette cérémonie ? Alors ça va beaucoup moins vite que la commande d'un petit noir sur le zinc. C'est une cérémonie qui dure minimum une demi-heure à peu près.
Hein. Oh oui, largement. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'Éthiopie nous apprend qu'il y a un rituel pour chaque boisson. Et que chaque boisson a une part de sacralité, comme on le connaît pour le thé, la cérémonie chinoise ou japonaise, et comme on l'a mené aussi pour le vin, avec un rituel d'ouverture de bouteilles, de service, etc., qui est très codifié, mais qu'on néglige très souvent aussi.
Et de dégustation.
Et de dégustation. Donc la cérémonie du café, c'est un moment d'accueil profond des visiteurs, mais aussi un moment où se joue le rapport avec les éléments, le feu, la terre, la matière végétale et les esprits. On rend grâce aux esprits, les tsars, la première goutte de café est dédiée justement aux esprits du café.
Est-ce qu'on parle de cerises, de grains, de... Quel est le bon terme pour parler du grain de café avant qu'il soit torréfié ?
Alors, avant qu'il soit torréfié, il s'agit du grain et du grain
vert. La cerise,
donc. Alors, la cerise, en fait, c'est le café, le fruit du caféier est une cerise de la taille d'une merise qui peut être rouge ou jaune, voire parfois même violette, mais le plus souvent rouge et jaune, avec un gros noyau. Évidemment, enfin avec deux gros noyaux qui sont justement les deux grains.
Les
parfois, il n'y en a qu'un. Et cette cerise, c'est une drupe. Elle ne tombe jamais, en fait, ou pratiquement. Elle sèche sur l'arbre. Quand on l'accueille, on va la faire...
Alors, on l'accueille, j'imagine, à la main.
On l'accueille. Hein. Alors, si on reste en Éthiopie, évidemment, on l'accueille à la main. Il y a plusieurs systèmes. Soit on fait comme la myrtille, pour la récolte des myrtilles, on tire tout d'un coup. Ça s'appelle le stripping. Et dans ce cas-là, on a une qualité globale qui est tout à fait moyenne. Ou soit on agit comme pour les vendanges tardives, avec, en plusieurs passes sur dans les rangs de vignes, et on cueille grain par grain. Et comme ça, on a une maturité optimale. Et en Éthiopie, on étend les cerises au soleil et on laisse justement sécher jusqu'à ce que le sucre et tous les anthocyanes qui sont sur la peau migrent à l'intérieur. Et ensuite, on décortique, on laisse reposer l'ensemble et on peut le torréfier au bout de quelques mois. La torréfaction la plus simple et la plus archaïque, la plus éternelle qui soit, c'est-à-dire qu'on jette simplement les grains de café dans l'équivalent d'une poêle, d'une structure métallique, avec le feu en dessous, et on va tourner pour éviter que les grains n'attachent ou ne crament trop, donc on va les retourner. On avait ça dans les campagnes françaises et européennes, avec des tambours métalliques qu'on mettait sur le feu, justement, qu'on faisait tourner. Là, il n'y a pas le système de tambour, où le tambour est la main, simplement, un petit peu à la façon de nos crêpes, et on les fait effectivement tourner. parle pas la bouche pleine, avec Alain Kruger.
Alors, qui est-ce qui pratique ce geste de la main sur la plaque chauffée ?
Alors, c'est toujours une femme dans la maison du café qui s'appelle la Bounabet, puisque le terme éthiopien hein, du café, c'est le boun. Donc on parle de Bouna pour les adjectifs, et c'est donc pas Kafa ou Kawa, etc., qui sont des termes arabes. Et le café, en fait, est une boisson des peuples qui ne sont pas arabisés du tout.
Ce geste, après ce geste, cette confrontation au feu, quelle est l'opération suivante ?
Alors l'opération suivante, comme toujours quand on utilise le café, on va
le piler,
l'écraser. Dans nos pays, on le moue avec des moulins. Ici, on l'écrase et ensuite on l'infuse.
Alors, on l'écrase de quelle façon ?
Avec justement un mortier, hein, tout simplement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va utiliser la djebena, qui est la cafetière. Et dans la djebena, l'un des points intéressants, c'est qu'on va faire plusieurs infusions. Dans le thé, on est habitué à ce process et on sait que plus un thé est de qualité et plus on va faire d'infusion. Là, dans le café, quand on apprécie le café en Occident, on ne fait qu'un café, évidemment. Et puis après, on crie au scandale si on réutilise le marc et la même mouture. Là, au contraire, on va offrir la troisième passe, en général, aux invités les plus prestigieux. Voilà. On va le servir dans un bol. Et vraiment, quand on
est... Un bol de quelle taille ?
Alors, c'est ça qui est assez intéressant. C'est des petits bols qui tiennent dans la main et qui ressemblent aux tasses de thé, de certains thés. C'est une céramique qui est assez fine et qui est en tulipe. Donc, on n'est pas du tout dans la tasse espresso. Elle est sans anse, donc on la tient. Et c'est des tasses, comme dans beaucoup de commensalités, de rituels collectifs, on passe la tasse de main en main.
Oui.
On communie. Complètement. On communie et de façon horizontale entre les hommes et de façon verticale avec les esprits.
Quelles sont les saveurs et quels sont les parfums que l'on ressent au moment de cette cérémonie ?
Alors, les parfums sont multiples.
Le café, déjà le grain sur la plaque de métal.
Alors, il y a effectivement tous les arômes de torréfaction et ça dépend jusqu'où elle est poussée. Si ça va jusqu'au carbonisé, ben effectivement, on va avoir ces arômes typiques de carbonisation. Mais sinon, dans la torréfaction, on passe classiquement hein, d'arômes d'herbes fraîches, d'herbes coupées, à des arômes de caramélisation, de pain, de biérologie, de levain, vous voyez, de céréales. Et ensuite, à des arômes un petit peu plus floraux, etc., jusque aux arômes plus de carbone.
Ce qui est intéressant. On disait brûlerie de café.
Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette cérémonie, on a beaucoup d'autres odeurs qui se mêlent à la dégustation du café. On a l'odeur de la terre, de la terre battue des maisons, terre battue sur laquelle on renverse justement.
Les
premières gouttes, donc ça c'est des odeurs d'humidité qui sont très intéressantes. On a l'odeur du feu puisque c'est du feu de bois. On a tout un contexte, une atmosphère olfactive qui fait qu'on rentre complètement dedans et ce temps qui paraît complètement éternel.
Le temps n'étant pas toujours éternel, je vous propose de planter café, demander à Mouloudji peut-être de nous le chanter.
Café, c'est pas pour les gens fragiles, y'a qu'à se baisser, mais c'est ça qui est difficile, fait chaud l'été, le soleil pèse des tonnes, il se fait porter, et c'est trop pour un seul homme.
Voilà, donc vous avez déjà planté un arbre à café ?
Oui, c'est l'un des grands rituels quand on visite des producteurs, d'autant plus s'ils sont amis, c'est qu'effectivement on plante l'arbre de la liberté, de la fraternité et des récoltes futures, oui, tout à fait.
Et alors, l'arbre que l'on plante, à quelle taille ?
Alors, il a, en termes de centimètres, on va être sur des choses qui font 30 centimètres à peu près, qui ont quelques mois de pépinière.
Et à maturité ?
Alors, à maturité, ça dépend beaucoup. Si on est sur des variétés anciennes pures, qui sont dites de port haut, et donc qui peuvent, c'est un arbrisseau, hein, qui peut aller jusqu'à 6 mètres sans problème. Donc, on va le tailler, on va l'étêter régulièrement pour la récolte. Et puis, au fur et à mesure du temps, et surtout au XXe siècle, pour faciliter les récoltes dans les régions de coteaux, on a créé des variétés appelées naines, à port bas, très productive et plus facile à récolter.
Les premiers arbres, vous écrivez que ça apparaît il y a moins 400 000 ans à peu près ?
Oui, là encore, on ne sait pas tout à fait ce qu'il en est sur le plan de la botanique.
Donc c'est un petit nouveau, c'est un arbre
très jeune.
C'est un petit
nouveau, c'est ça, oui. Qui est intéressant, c'est que le caféier... C'est ce qui le rend aussi, ce qui nous rend plein de tendresse à son égard, c'est que c'est un petit jeune sur le plan botanique et c'est un petit jeune sur le plan de la consommation. Voilà, le thé est bien plus ancien, la bière est bien plus ancienne, le vin est bien plus ancien et le café arrive vraiment sur le tard.
Et le café a été aussi une boisson chinoise chez les soufis.
Alors, le café a été, et on dit souvent que le café est le fils de l'islamisation, le fils de l'islam. Tous les mythes originels du café mettent en scène, en général, soit des jeunes garçons, soit des religieux soufis qui cherchaient en fait un excitant pour pouvoir prier toute la nuit après une journée de dur labeur, de forte chaleur, etc. Oui. Et effectivement, en Chine, on sait qu'il y avait des communautés soufis, et notamment un musulman, particulièrement musulman chinois, particulièrement actif dans le commerce des plantes médicinales, qui faisait régulièrement du commerce avec la péninsule arabique, et qui venait lui-même se recueillir dans la péninsule arabique sur les lieux saints, et qui aurait apporté le cérémoniel du thé et de la boisson, justement, de l'infusion de feuilles de thé.
On parle du café, bien sûr, dans les Mille et Une Nuits, mais il y a aussi des poèmes soufis qui l'évoquent.
Oui, il y a toute une littérature, effectivement, soufie et du monde du Dar al-Islam qui évoque le café, comme ensuite... dans les pays occidentaux. Et on a plusieurs tchèques, par exemple le tchèque Abdelkader, qui écrit et qui se porte un petit peu en défense du café face à ses détracteurs, qui le voyaient comme une boisson un petit peu étrangère.
Non, pas étrangère, diabolique.
Diabolique. Et donc il a écrit de longs passages et beaux passages. Au café, tu chasses les soucis des grands. Tu ramènes ceux qui errent par les chemins de la connaissance. Le café est le breuvage des gens de Dieu et le cordial de ses serviteurs assoiffés de sagesse. Si tu en doutes, regarde la jeunesse et la beauté de ceux qui le boivent. Le café est la boisson des gens de Dieu. En lui est la santé.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles de café ?
Aujourd'hui, on en fait à peu près... plus rien. On est, nous, les rares, voire les seuls, je ne sais pas, à les proposer. En infusion, ça a le goût d'armoise, c'est absolument délicieux. À l'origine, on sait que les Oromos, donc ce premier peuple du café, ou caféinomane,
donc en Éthiopie,
hein, dans la région de Kaffa, donc au sud-ouest de l'Éthiopie, avait toute une gastronomie de boulettes à base de café. Mais alors, quand on dit de café, c'était pas forcément du café torréfié, ça on en a pas à la trace, mais c'était justement des baies fraîches. On enlevait les grains, on prenait les baies fraîches, on les écrasait, on les mélangeait avec du beurre et parfois avec des feuilles.
Celui qui découvre le café, pour nous les Français, c'est la merveille, ou c'est antérieur.
Celui qui découvre le café, ça dépend si c'est celui qui découvre la plante ou si c'est celui qui découvre justement le grain ou si c'est celui qui va le planter. Donc on a plusieurs grandes figures, de Jussieu à la Merveille, à Dufresne d'Arcelles, à un personnage un petit peu mythique qui s'appelle de Clieux qui aurait sacrifié sa vie pour aller le planter dans les Antilles. Ce que l'on sait trop peu, c'est que le café a d'abord débarqués en France par Marseille. Et les premiers consommateurs de café, les premiers cafés, sont marseillais. Ah, on parle souvent du Procope.
Procope à Paris.
À Paris, hein, Procopio dei Coltelli.
Qui était italien.
Qui était un italien, en fait, a pris simplement la suite et a été formé par les Arméniens. Et le café, c'était le boulot des Arméniens, qui le vendaient dans la rue.
Là, on est au 18e.
Tout à fait. Et celui qui a fait découvrir vraiment le café dans les hautes sphères de la société française et qui a marqué le coup jusqu'à être singé justement par Molière, c'est l'ambassadeur de Turquie auprès de Louis XIV. Et lui, pour faire sensation, pour faire parler de lui, a ouvert son salon et servait du café. Et donc les mauvaises langues disaient que voilà, il était aussi bien fréquenté pour le café que pour ses esclaves qui faisaient le service et que pour l'orientalisme.
Oui, parce que Louis XV était un fou de café.
Tout à fait. Mais le café faisait un grand débat. Hein. Madame de Sévigné dit justement le café, Racine est comme le café, il passera.
Si on va un petit peu plus à l'est, hein, Bach, il y a une cantate profane qui est magnifique, donc,
oui.
Dont pourrait écouter peut-être la cantate de Lisette. C'est Lichen en allemand, et elle trouve que le café a bon goût, qu'il est plus agréable que mille baisers. Hein, c'est ça, c'est la traduction.
Oui, alors la chose formidable avec cette cantate, c'est que Bach singe ou nous donne à voir ou à écouter plus exactement vraiment tout le débat du temps. C'est pour ça que c'est une cantate profane. C'est voilà, la polémique entre les anciens et les modernes. Donc l'ancien, c'est le père de famille. Et la moderne, c'est la jeune fille. Le père lui interdit effectivement de boire du café parce qu'il trouve ça la boisson du diable, la boisson érotique. Donc même les Anglaises, à cette époque-là, pensaient que ça posait des problèmes pour la virilité de leur mari.
Ça posait des problèmes ou au contraire, ça pouvait créer des problèmes.
Qui est assez drôle, et encore aujourd'hui dans la médecine, on entend tout et son contraire, c'est que d'une région à l'autre et d'une époque à l'autre, soit ça favorise les activités sexuelles, ou soit au contraire, ça les empêche. Vous voyez, c'est assez drôle. Et là, la fille dit effectivement, enfin le père menace sa fille en disant, écoute, si tu bois du café, si je te reprends encore une fois à boire du café, tu ne te marieras jamais, je t'interdirai. Et la fille dit, oh là là là, là bon d'accord, je suis d'accord, signons vite, trouve-moi vite un mari et signons le contrat tout de suite. Et le père dit, oh formidable, formidable, formidable. Et la fille dit simplement, dans le contrat, il y aura écrit que je pourrai boire du café toute ma vie.
Si l'on voyage depuis la péninsule arabique et depuis le Yémen, ou si l'on remonte à l'origine à l'Éthiopie, qui va aller planter du café en Amérique du Sud ?
Les Arabicas sont vraiment autochtones du sud-ouest de l'Éthiopie. Les populations arabes du nord de l'Éthiopie le rencontrent, le diffusent, il est transféré, il est acclimaté au Yémen, il change complètement de biotope. Il passe de hauts plateaux, forêts, sur des coteaux d'une extrême aridité, et qui transforme complètement le paysage rural du Yémen. Et du Yémen, il passe en Inde. Et là, il y a un petit peu cette guerre entre les puissances coloniales, entre la France et la Hollande. Les Hollandais réussissent à obtenir des grains. On a longtemps cru que ça venait du Yémen, mais vraisemblablement, ils les ont pris à Ceylan et dans la péninsule indienne pour les planter dans leur colonie aujourd'hui indonésienne, mais de Java. De Java, ils en font rapatrier à Amsterdam. Et à Amsterdam, à la faveur de la fin de la guerre, le conservateur du jardin botanique en offre un petit peu à toute l'Europe. Les Français, pendant ce temps-là, essayent plusieurs fois d'aller chercher du café au Yémen, de l'acclimater à La Réunion, qui s'appelait l'île de Bourbon, et au bout d'un moment, quelques années autour de 1720, grosso modo au début du XVIIIe siècle, l'acclimatation fonctionne et donnera naissance à ce qu'on a appelé le Bourbon. À partir de là, le Bourbon est planté aux Antilles par les Français, mais aussi par les Hollandais. Et donc on ne sait pas bien, c'est assez intéressant, c'est en train de se jouer en ce moment parce qu'il y a pas mal de recherches qui sont faites, on ne sait pas bien par exemple qui a planté les premiers arbres en Guadeloupe, en Martinique, etc. Donc les Français pendant longtemps ont dit, voilà, c'est nous qui l'avons fait. Et puis les Hollandais sont un petit peu plus discrets, mais a priori assez efficaces. Donc eux ont planté tout de suite au Suriname, les Français dans l'actuelle Guyane, et de là ça s'est transmis dans tous les pays à la faveur d'histoires aussi rocambolesques, par exemple la diffusion au Brésil qui aurait été faite grâce à l'infidélité de la femme du gouverneur française qui batifolait avec un repris de justice brésilien.
On a retrouvé une archive, je crois que c'est vous qui faites un voyage en Afrique du Sud.
Alors Gringo, content de notre récolte?
Oui. J'ai trouvé le café que je cherchais.
J'espère pour toi qu'il est meilleur que celui que tu m'as refusé.
Du calme, Pedro. Goûte ce café.
Oh, que gringo est meilleur. Et mérite bien ton nom, El Gringo.
Café Jacques Vabre, café d'expert.
C'était pas vous, donc, le El Gringo?
Non, c'était pas moi, effectivement. Effectivement, je fais un petit peu ce métier, mais sans être El Gringo. Ce qui est assez marrant, c'est que le El Gringo, c'est une histoire que je raconte dans le livre. C'est vraiment la ressucée d'un personnage publicitaire colombien qui s'appelait Juan Valdez. Et voilà, j'écris Juan Valdez n'a jamais existé parce que pour tout le monde, le café est incarné par cet homme au sourire ultra bride, ouais, un petit peu à la James Bond, et qui allait montrer le café torréfié aux planteurs de café.
Oui, alors que vous êtes allé cueillir les grains chez les cultivateurs que vous avez choisi, recueilli.
Oui, alors nous, on travaille essentiellement en direct, beaucoup en biodynamie et en bio, et on fait beaucoup d'allers-retours avec les planteurs pour justement progresser ensemble et profiler au mieux les cafés, comprendre comment ils dégustent, comment nous, on déguste, et comment est-ce que à partir d'un terroir qu'on améliore en permanence et de techniques, eh bien, on peut augmenter, sublimer la qualité d'année en année.
Merci à vous, voilà. Courty, pour ce voyage au pays du café. Je recommande votre Bible aux éditions Duchesne.
Attention, hein. 3, 4.
Plié, tendu, la jambe
et... C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Crugère, avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est d'Olivier Dupré, mais vous l'avez reconnu, le mixage de Romain Lenoir et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et 1001 nuits. Vous pouvez aussi la télécharger pendant un an et dans quelques instants, le journal.